Bonjour, je m'appelle Alexandra Siosberg, je rénove du mobilier de brocante que je vends sur mon site petitebelette.com et je vous accompagne dans vos projets de rénovation. Bienvenue sur le podcast Old is the New Gold qui propose des échanges avec des personnes qui sont amoureuses de la Chine, adeptes du recyclage et du upcycling et qui utilisent des matériaux anciens ou recyclés pour rénover et décorer. Ils nous expliquent comment ils ont fait pour sourcer la matière première, la rénover et l'intégrer dans leur intérieur. Ce podcast s'accompagne de vidéos avec des images sur le site petitebelette.com rubrique tutos et conversations pour pouvoir visualiser et vous y trouverez des tutos, une masterclass pour apprendre à rénover vos meubles de brocante et vous pouvez me suivre sur Instagram sur @belettepetite et old is the new go-6 podcast. Et bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer la talentueuse décoratrice d'intérieur Camille Grenu du compte Projet Wabi Sabi qui rénove des lieux de vie avec une recherche de bien-être et d'apaisement en utilisant au maximum l'existant et l'essence du lieu. Les matériaux intemporels, simples et les choses qui ont une histoire sont souvent le fil rouge de ces rénovations. Vous l'aurez compris, ce sont des valeurs qui me touchent et j'avais donc très envie de lui tendre mon micro. Bonjour Camille.
Bonjour Alexandra.
Je suis ravie que tu sois là.
Et moi donc.
Alors, je suis un petit peu intimidée parce que tu as deux métiers, et dont l'un journaliste. T'interviewer, c'est pas chose évidente. Mais on va parler surtout de ta deuxième casquette, qui est celle de décoratrice d'intérieur.
On va papoter, ça ne sera pas comme une interview.
Voilà, c'est ça. Bon, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter à nous pour qu'on puisse comprendre comment tu en es arrivée à la déco ?
Avec plaisir. Donc, tu l'as dit, j'ai une formation, effectivement, de journaliste. Quand j'étais une petite fille, j'avais trois envies de métiers différents. Soit vétérinaire parce que j'adorais les animaux. D'ailleurs, je précise que oui. Joe, mon chien, est avec moi et que s'il y a des bruits bizarres, ça n'est pas mon ventre. Donc vétérinaire, architecte ou journaliste. Et puis en sixième, on a eu un carrefour des métiers. Et j'ai grandi à la campagne, en Picardie. Donc les vétérinaires qui venaient parler de leur métier, s'occuper des vaches, des veaux, des cochons. Ah oui. Et donc quand j'ai compris qu'il faudrait y aller jusqu'à la garde avec le bras pour faire accoucher les vaches, j'ai renoncé. Moi, je voulais surtout m'occuper des lapins et des chiens et des chats et plutôt les caresser que de les opérer. Donc voilà, j'ai compris qu'en fait, je me plantais un peu. Et puis après, je me suis renseignée pour architecte parce que ça me passionnait. Mais à l'époque, il n'y avait pas le métier d'architecte d'intérieur.
Ouais, c'est vrai.
C'était architecte des PLG ou décorateur, mais il n'y avait pas architecte d'intérieur. Et architecte des PLG, fallait être super fort en maths, étudier les masses, les charges, la résistance des matériaux, densité, enfin des trucs. Moi, j'étais nulle à chier en sciences. Donc, je me suis toujours dit, c'est pas pour moi.
Ouais.
Et puis, le dernier métier, c'était journaliste. Et j'ai fait mon stage de troisième au journal Le Monde, à la correction, avec un correcteur. C'était en 1995, quelque chose comme ça. C'était encore des correcteurs avec leur stylo rouge, comme à l'école. Et puis, ils avaient un espèce de truc de hiéroglyphe. Enfin, ils avaient des tas de signes pour dire ça, c'est de la ponctuation, ça, c'est de la syntaxe. Enfin, on ne comprenait rien, mais c'était passionnant à regarder.
D'accord.
Et le fait d'évoluer dans une rédaction, j'ai adoré. Et voilà, ça m'a déterminée
à faire du journalisme.
Donc après, moi, quand j'ai une idée en tête, je l'ai bien en tête et pas ailleurs, comme dit ma mère. Donc voilà, j'ai passé le bac, puis Sciences Po, après une hypocagne, et j'ai préparé les concours tout en étant stagiaire à LCI à l'époque, la chaîne Info. Mmh. Et en fait, j'avais tellement pas le temps de préparer les concours que je n'ai pas eu les concours, donc je me suis réinscrite l'année d'après en licence d'histoire pour pouvoir préparer les concours tranquillement tout en passant cette licence.
Ouais.
Et à ce moment-là, j'ai commencé évidemment à avoir des cours d'histoire de l'art. Donc, ça m'est revenu. Je me suis aperçue que j'avais toujours ça en tête quand même, beaucoup. Et puis finalement, j'ai eu l'école de journalisme, l'IPJ, Paris Dauphine. Wow. Donc j'étais lancée, donc j'ai fait mes 2 années d'école. Et puis après, j'ai embrayé à France Télévisions tout de suite. Et puis j'ai été très très heureuse comme journaliste pendant longtemps. Et puis en fait, quand la chaîne France Info Télé s'est créée en 2016, j'ai postulé pour présenter les journaux, j'ai été prise et je suis entrée dans l'univers des présentateurs, qui est à la fois fascinant parce qu'on fait du direct, il y a beaucoup d'adrénaline, c'est à la fois délicieux et terrible, enfin c'est un espèce de sentiment très particulier, très grisant. Mais en même temps, on a l'impression que le moindre faux pas, ce sera la chute. Ouais. C'est un univers très dur, très concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ambition. Moi, j'ai jamais rêvé du 20h, si tu veux. Mais j'adorais faire ça, mais je sentais que j'étais attendue au tournant tout le temps. Et ça me rendait un peu malheureuse parce que je me suis aperçue que je mettais trop d'affect dans ce métier-là. Et qu'il fallait que je... Comment te dire ça ? Que je canalise aussi mon affect et mon émotion et mes sentiments et ma sensibilité sur autre chose.
Quelque chose de plus concret peut-être ?
Ouais, je sais pas, mais esthétique. Autre chose que cet univers-là, ce métier-là, ces confrères-là, enfin voilà. Que je ne devais pas être amie avec tout le monde, que je ne devais pas forcément m'entendre bien avec tout le monde, qu'il pouvait m'arriver des trucs comme dans tous les métiers et que ce n'était pas la fin du monde. Enfin, je jouais, il fallait...
Oui, tu avais l'impression qu'en étant devant les caméras, en fait, tu jouais de ta personne tous les jours.
Je jouais ma vie quasiment à chaque journal. J'avais l'impression que j'étais nulle, que tous les autres étaient meilleurs que moi. Enfin,
tu avais quel âge quand tu as commencé?
C'était 2016, donc je devais avoir, 39 ans, quelque chose comme ça, 38. Ouais. Et en fait, je me suis surtout aperçue que c'était pas l'univers du journalisme qui était dur avec moi, mais que c'était moi qui mettais trop de pression et d'affect sur ce truc-là. Et qu'il fallait aussi peut-être que, tu vois, j'avais pas de loisirs, j'avais pas de sport particulier, j'avais pas d'exutoire à l'extérieur. Et donc, je mettais tous les enjeux sur mon boulot.
Ouais, je comprends.
Et depuis toujours, je dévore les magazines de déco, je suis abonnée à tous, j'y mets ma fortune, enfin vraiment, j'ai toujours décoré mes maisons, j'ai toujours adoré ça. Et quand j'étais petite, je faisais des maisons dans des boîtes à chaussures, miniatures. Ma mère, ça la rendait dingue parce que j'allais découper des ourlets de jupe pour avoir le tissu qui va bien, pour faire la couette. Je saccageais ces rouleaux de papier peint, enfin voilà. Mais elle a ressorti ça de ses placards il y a pas très longtemps, elle me les a montrés, c'était incroyable.
C'est vrai, elle les a gardés.
Ouais, elle a tout gardé et vraiment, c'était dans un niveau de détail. Je m'épate moi-même quand je revois ça.
Ça m'étonne pas.
Et donc bref, là-dessus est arrivé le Covid en 2020. Nous, on faisait partie des services, enfin des métiers qui devaient assurer une astreinte, quoi qu'il arrive. L'information, c'était important. Donc, on a continué à travailler. On n'a pas eu de confinement au sens où les gens ou d'autres qui sont vraiment restés chez eux. Nous, on allait quand même travailler, présenter les journaux. Tu ne peux pas le faire en télétravail. Voilà. Je me suis aperçue à ce moment-là et progressivement à quel point tout le monde se réveillait sur son intérieur, sur son chez-soi.
Ça a été la grande révélation.
Ce qu'on a lu partout, je m'en suis aperçue aussi, qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils n'avaient pas d'endroit pour travailler, qu'ils n'avaient pas d'endroit pour cloisonner la vie perso, la vie pro, que finalement, ce carrelage moche qu'ils ne voyaient pas trop parce qu'ils prenaient une douche le matin et ils l'avaient sous le nez toute la journée, ils ne pouvaient plus le saquer, voilà. Et en même temps, moi j'ai toujours, et j'ai un mari merveilleux pour ça, parce qu'il me suit, mais on a tous les 2 ans on déménage en fait, parce que quand j'ai fini un endroit, j'ai besoin de recommencer.
T'as envie de faire autre chose.
Et donc, j'avais un agent immobilier qui est devenu un ami, qui s'appelle Grégory, que je salue. Et qui me vendait des lieux, et quand on bougeait... Il les revendait pour moi, si tu veux. Donc, un coup, j'étais son acheteuse, un coup, j'étais sa vendeuse. Et puis, je lui ai racheté autre chose. Et 2 ans après, je lui revendais la même chose. Et il m'a dit, mais Camille,
y a un
tu fais du coup de cœur à tous les coups. Je fais une visite,
t'es
une super cliente. Je fais une visite, les gens achètent au prix et tu fais des 100 et des 1000 de plus-value. Donc, mais lance-toi parce que vraiment, t'as un truc.
Ouais.
Et c'est lui qui m'a trouvé mes premiers clients.
D'accord.
Il a été, oui, la caution qui m'a donné confiance en moi. Mm-hmm. Tu sais, quand c'est tes proches et quand c'est un père PAIR du milieu que tu rêves d'intégrer, c'est pas pareil.
C'est clair.
Et ouais, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Mm-hmm. Je me suis dit, c'est très bien, ça va me changer les idées du boulot, de France Télé, que j'adore en plus. Hein.
Ouais,
je continue à m'éclater.
Donc, tu continues à faire le week-end, tu as ton poste de...
J'ai mes émissions le week-end, je travaille là-bas le vendredi, le samedi, le dimanche. Et puis, je prépare aussi le reste de la semaine. Hein. Je me nourris d'infos, etc. Je prépare. Mais ça ne m'empêche pas, sur mes jours de congé, de faire mes chantiers, de m'occuper de mes clients, de faire mes conceptions, de faire mes devis, mes factures. Enfin, 7 jours sur 7, mais... La déco, c'est tellement un pied.
Tu as réussi à créer un concept qui fait que tes clients viennent vers toi parce que tu as cette capacité à utiliser beaucoup ce qui existe, à essayer de créer non seulement des intérieurs très très beaux, mais souvent avec le budget qui existe, avec les moyens du bord. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant dont on va beaucoup plus parler. Tu devais nous décrire ton style de déco. Comment tu le décrirais ?
C'est vraiment pour ça que j'ai appelé mon agence projet Wabi Sabi.
Ouais.
Ça a commencé par la découverte du travail de Axel Vervoorde, qui est un architecte belge extraordinaire. Mmh. Alors, il a deux styles. Une première période que j'aime pas trop, qui est très Château de la Loire, tu vois, le style vraiment Louis-Philippe, hyper chargé, vraiment château, lustra pampi, tout ça. Et une partie, justement, Wabi-Sabi. Mmh. Et le Wabi Sabi, donc j'ai d'abord, en fait, je suis tombée sur son bouquin qui s'appelle Wabi Sabi. Mmh. Mon mari me l'a offert. Mmh. J'ai adoré ces ambiances d'atmosphère totalement dépouillée, mais avec des couleurs incroyables, hyper chaudes, hyper lumineuses, très sorties de la terre, de la nature, tu vois, beaucoup de bois. Mmh. Et j'ai creusé le Wabi Sabi vraiment beaucoup. J'aurais pu faire une thèse dessus tellement j'ai creusé. Et en fait, ça me correspond à mort. Donc, j'ai eu envie et je me suis aussi aperçue... j'ai pas du tout fait d'études de marché ni rien. Vraiment, c'est pas ma came. Je suis nulle sur ces trucs-là. Je sais pas faire. Mais en faisant moi mes propres recherches, je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas cette offre-là. Mm-hmm. À part Axel Vervoorde, il n'y avait pas cette offre-là. Mm-hmm. Et voilà. Et donc le Wabi Sabi, pour ceux qui ne savent pas, j'invite à aller prospecter. Ouais. C'est d'abord une philosophie japonaise. Et je crois que en idéogramme, ça Wabi Sabi, ça veut dire la beauté dans l'imperfection, et aussi la beauté du temps qui passe.
Ouais.
Et du coup, la beauté des choses, des lieux, des meubles, des bâtiments, enfin même des végétaux, du temps qui passe. La beauté de ces choses-là, une vieille brique, une vieille table pleine de marques du passé, ou un bouquet de feuilles mortes, ça peut être très très beau. Le métal oxydé, ça peut être sublime. Enfin voilà, un trash wall, comme on dit, un mur qui n'est pas du tout bien enduit, où il y a toutes les traces de coups des gens qui sont passés, des vieilles pierres. Enfin voilà, tout ça, c'est beau en fait, et ça dégage une poésie folle.
Ouais.
Et surtout, ça dégage un truc que tu ne trouveras jamais avec du placo, avec alors j'utilise du placo sur mes chantiers évidemment, mais là où il n'y a pas ça d'abord, mais dès qu'il y a ce genre de matière première, je la garde et je supplie mes clients de la garder. Et d'ailleurs, ils m'appellent aussi pour ça.
Oui, c'est ça. Ils viennent vers toi parce que ils savent que c'est ça que tu vas. Tu vas embellir et là, tu vas utiliser ce qui existe.
Et j'ai mon artisan que j'adore, Renel, qui me parlait d'un chantier l'autre jour qu'il a fait pour un autre client qui passe pas du tout par moi. Il me dit, regarde Camille, c'est tomettes anciennes, je dois mettre du parquet flottant dessus. Et c'est vraiment le genre de truc où il faudra me passer sur le corps, ou alors je ne travaille pas, je ne peux pas travailler sur des choses comme ça.
Voilà. Ouais, ouais.
Mais les gens le savent parce que ils sont dans la démarche de quelqu'un qui va justement préserver au maximum ces choses-là. Mais il faut aussi les prendre par la main.
Oui, c'est ça.
Pour leur expliquer que c'est pas sale, que c'est pas usé, que c'est pas moche, que c'est beau en fait, que c'est qu'il y a vraiment un truc qui se dégage de ça et qu'il faut juste faire en sorte que ça soit valorisé, sublimé par tout ce qu'il y a autour, que ça dialogue aussi. Que ça... Souvent, c'est des choses qui toutes seules ne résonnent pas beaucoup. Et puis, quand tu les fais dialoguer, un vieux mur de pierre, comme chez toi, les gens connaissent, ils peuvent aller voir, un vieux mur de pierre magnifique avec un meuble en bois sublime qui a 100 ans, voilà, ça parle, ils se parlent entre eux, en fait, les objets. Et il y a une espèce de poésie comme ça, de narration dans le décor. Et quand tu es chez toi, tu vis dans une histoire, en fait. Il y a vraiment une histoire. Et cette histoire, elle est tricotée autour de toi, de ta personnalité. Donc, je pars aussi des meubles de famille que les gens adorent. Il y a des meubles, voilà, parfois, on ne les supporte plus parce qu'on les a trop vus, parce qu'ils rappellent la grand-tante Jeannine. Je sais pas, le fauteuil...
T'as hérité d'un truc, t'as hérité,
tu la vois dans ce fauteuil en train de tricoter avec ses chats, puis tu l'aimais pas parce qu'elle était méchante et qu'elle piquait quand elle embrassait, ben, tu vois. Mais sauf que ce fauteuil, il a rien demandé, il a eu d'autres vies avant, et il tient qu'à toi que de lui en donner encore une nouvelle. Et il suffit, ce fauteuil, de le changer d'endroit, de... Parfois de repeindre aussi. Il y a des bois qui sont pas beaux.
Bien sûr.
Mais si tu repeins...
Ou enlever des vernis.
Oui, ou faire un bois brûlé. Ou passer un brou de noix. Ou voilà, comme tu sais si bien faire.
Transformer.
Et ça reste le même, mais il est différent. Et il est vraiment à toi. Et tu le regardes autrement aussi. Et il va entrer en résonance avec d'autres choses. Tu lui mets une jolie peau de mouton, un joli tissu, un plaid, n'importe quoi... Voilà, tout de suite, ça lui change aussi l'allure. Et,
Et je pense aussi, non seulement tu as cette vision wabi-sabi très, très philosophique et de la décoration, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que tu accompagnes tes clients et tu t'adaptes et tu transformes aussi certaines choses qui sont existantes. Et ça, c'est pas commun chez les décorateurs d'intérieur. Souvent, ils vont juste faire des plans, ils vont donner le brief à leurs artisans. Mais toi, tu t'impliques vraiment dans cette...
Oui, parce que ça me fait mal quelque part de dire, pour le principe, on va tout démolir et on va tout refaire. Et puis, c'est pas du tout wabi-sabi, en fait, de penser comme
ben,
ça.
C'est ça, oui.
Parce que le wabi-sabi, c'est d'abord regarder ce qui a vécu et voir ce qu'on peut en faire. Donc, je prends l'exemple d'une de mes clientes que j'adore et qui se reconnaîtra peut-être, qui m'a demandé de repenser sa salle de bain. Et elle m'emmène et elle me montre et elle me dit « Ah, cette double vasque en marbre rouge et puis ce sol en marbre rouge, c'est pas possible, il faut faire sauter tout ça. » Et en fait, je lui dis « Ben non, parce qu'en fait, c'est hyper beau. C'est juste tout ce qu'il y a autour qui est hyper moche. blanc. Mais le marbre rouge, si tu regardes d'abord les prix aujourd'hui, c'est complètement dingue.
C'est clair.
Les gens payent des fortunes pour avoir du marbre rouge. Toi, t'en as, donc on va le garder. »
Et on va faire tout
plus,
le décor.
Et en plus, regarde cette couleur terracotta, ce veinage. C'est hyper beau en vrai si tu fais abstraction du reste.
Ouais, c'est vrai.
Et je vais te proposer quelque chose, au contraire, autour de ça.
Ouais.
Et donc, on est parti sur des très beaux éliges verticaux, vraiment de la couleur du terracotta qui rappelle le marbre. Une belle peinture à la chaux sur le plafond, une baignoire îlot qui soit dans les mêmes teintes, et puis on garde le sol et la vasque en marbre rouge, et on refait le mur autour, le mur n'importe quoi, le meuble vasque, on le refait en très beau chêne plissé, un peu doré, et quand je lui ai montré le dossier de conception, elle m'a dit « Oh, mais on dirait un bateau de croisière de luxe, c'est trop beau, j'adore !» Et du coup, elle rachète son marbre rouge quelque part, tu vois, dans l'idéologie.
Mais au départ, quand tu lui as dit « Il faut qu'on garde le marbre rouge », elle t'a suivi ou au début, elle était un peu réticente?
Non, elle m'a suivi parce qu'en fait... On a, j'ai déjà refait toutes ces pièces de réception.
Ah oui.
Au début, elle m'avait appelé que pour ça.
D'accord.
Et typiquement, dans sa cuisine, on avait On avait une cuisine d'une grande marque, très vintage, mais pas du tout standard, tout sur mesure, avec des portes jaune vanille, d'énormes poignées en inox très très laides. Et elle n'en pouvait plus, on avait un carrelage très moche au sol, enfin, elle n'en pouvait plus, elle me disait « je ne supporte plus cette cuisine ». Mais elle avait un budget quand même assez contraint parce que c'est un appart de 300 mètres carrés, donc si on veut tout refaire, il faut faire gaffe. Ouais. Et de toute façon, moi je lui dis « mais en fait, les implantations de caissons, elles sont vachement bien. L'électroménager inox, là, il a un petit côté vintage hyper joli, on le garde. Le plan de travail, il venait de le faire refaire en bois ». Et en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement refait des façades et puis des joues autour des caissons existants en okoumé, en très joli bois, plein de... Je ne sais pas comment on dit, plein de...
Veinage.
Ouais, plein de veinage. Enfin, ouais, vraiment, comme des vagues.
Un peu.
C'est trop beau. Et qu'on a verni en vernis bateau mat, trois couches comme ça, ça résiste
à
tout, avec des petites poignées en cuir. Ouais. Et puis, le comme ça jurait, je voulais pas que ça jure avec le plan de travail IKEA qu'ils avaient acheté, pardon, j'ai cité la marque, on a mis une résine blanche hyper jolie sur le plan de travail et on a mis un béton ciré au sol blanc qui, du coup, fait écho aussi au plan de travail. Et le koumé partout ailleurs. Et voilà. Et ils avaient une table en marbre ronde et des chaises de collection magnifiques. Et ça le fait grave, en fait.
Et mais c'est hallucinant, quoi. Le avant et après est fou. Et pour un budget, du coup, plutôt
Et du coup, c'est écolo.
Ouais,
parce que tu fais moins de déchets.
Voilà,
tu utilises l'existant.
Tu as repeint le plan de travail.
Ouais, on a mis une résine vraiment qui résiste à tout, très très bien, mais bon, ça évite de racheter un plan de travail, surtout qu'il était, il avait quelques mois, donc c'était... Et puis, donc c'est rentable pour le client, c'est rentable pour la planète, et finalement, si c'est bien réfléchi, pour l'artisan, c'est bien aussi parce qu'il se casse moins la tête, hein, il démonte pas tout, il remonte pas tout. On oublie souvent que les artisans, c'est quand même... Dans artisans, il y a artistes. Ouais. Et les mecs, ils adorent faire de l'ébénisterie comme ça pour coffrer de l'existant, pour faire des portes sur mesure, travailler le bois, faire des belles coupes en biseau. Enfin, tu vois, ils préfèrent mille fois ça que de poser une porte de la grande distrib qu'ils ont déjà posée mille fois. Et il n'y a pas de challenge intellectuel ou esthétique pour eux, et en fait ils sont hyper gratifiés par ce genre de démarche aussi, qui est en plus, ça fait quand même une cuisine unique.
Ah bah c'est clair,
personne n'a la même.
Ah non, ça,
donc
c'est...
les gens qui viennent chez toi, ils peuvent pas dire ah oui c'est la porte de ce fameux PLUM qu'on a vu mille fois sur Pinterest. C'est vraiment, c'est chez toi,
c'est génial,
c'est unique, c'est hyper beau, c'est la même qu'avant, mais sauf que c'est pas la même qu'avant.
J'aimerais bien qu'on parle peut-être plus particulièrement de deux projets, parce que tu en as fait beaucoup, beaucoup, mais en tout cas, les deux projets dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est le projet de la maison dans laquelle vous habitez en ce moment, et aussi un autre projet de maison de week-end, de vacances.
Bon, comme je te disais, merci mon petit mari qui me suit partout où je vais en donnant carte blanche, on déménage un peu tous les deux ans. Et donc après le Covid, à l'époque on habitait dans le nord-est de Paris, au Lila, et travaillant tous les deux à France Télévisions, on avait beaucoup de trajets en métro. Et un jour mon mari rentre, et c'est l'avantage d'être journaliste, c'est que tu vois vite les infos circuler, et il me dit je reçois beaucoup de communiqués de presse, de courtiers et tout ça, qui disent que les prix commencent à baisser à Paris et que c'est historique. Et puis dans le même temps, après le Covid, les maisons comme ça en très 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 proche banlieue de Paris, à 2 minutes d'un métro, maison avec extérieur, après le confinement, les gens cherchaient. Et on s'est dit, on va aller à contre-courant, c'est-à-dire que nous, on va vendre notre maison que tout le monde veut, et on va aller dans Paris où les prix baissent, parce qu'on n'avait jamais envisagé de pouvoir s'offrir un truc dans Paris, objectivement, et encore moins dans le sud de Paris, rive gauche, près de France Télé, enfin tu vois, le truc pas possible. Et donc... Mon mari, moi, il suffit qu'il me dise un truc comme ça.
La minute d'après.
La minute d'après, je suis sur Internet en train de chercher ce qu'on va acheter. Et d'appeler des agents pour mettre en vente. Et donc, on est repassé par notre ami agent immobilier. Qui a fait une visite et c'est parti, à un prix, avant le Covid, on n'aurait jamais pu vendre à ce prix-là. Après le Covid, voilà, il y avait cet engouement qui fait qu'on a très bien vendu. Et je pense que j'ai eu une chance du tonnerre.
Quoi, vous avez vendu avant d'avoir tout.
Non, on a vraiment
c'était
fait
en même temps.
En même temps. Il n'y a pas eu de pré-relais, il n'y a pas eu de... En même temps, c'était ouf, comme dirait
tout
mon fils.
Tout s'est aligné. Ouais.
Tout s'est aligné. Et j'ai eu un coup de bol terrible parce que le jour où mon mari me dit ça, je regarde ce qu'il y a à vendre près de France Télévisions, je tombe sur un truc complètement fou dans une impasse privée du 16e arrondissement de Paris. Donc vraiment pas du tout notre monde, ni notre bourse. Et... je vois qu'il y a énormément de travaux à faire, que c'est négociable. Et surtout, c'est dans une impasse privée. C'est un rez-de-jardin dans un immeuble. Donc, on retourne en copro quand même. Après avoir une maison, ça fait bizarre. Mais c'est pas n'importe quel copro, tu vois. C'est un rez-de-jardin. On avait tout le tour de... En plus, il y a un immeuble qui est en biseau, si tu veux. Il y a des pans coupés, donc des grands pans coupés. Donc, on a triple exposition. Dans l'appart et c'est quand même grand, ça fait 90 mètres carrés. Il y a avec deux chambres, mais mon mari me dit dans ces cas-là, je te connais, tu vas même trouver le moyen de moyenner. et donc on y va, on visite, j'appelle l'agent, il me dit mais c'est dingue, je viens de la mettre en ligne, ok, rendez-vous, machin. On était à France Télé, donc on avait juste 300 mètres à faire. On est allé, on a craqué. On a fait une offre un peu plus basse. Et en fait, comme ça faisait... C'était une vieille dame qui partait en maison de retraite médicalisée. Voilà. Et ses trois fils étaient très pressés. Donc, ils ont dit oui. Et en fait, après coup, en parlant avec les voisins du hameau, ils m'ont dit, mais comment vous avez fait ? Il n'y a jamais rien de libre, tout part directement. Et quand il y a un truc qui est à vendre, on l'achète entre nous.
Ah
parce
oui,
que
ça. Ah, il n'avait même pas vu, entendu parler du truc. Ah ouais, vous avez vu.
Donc, on a eu vraiment un coup de bol fou.
Et qu'est-ce qui vous a fait craquer donc, dans cette
Alors,
maison?
Ce qui m'a fait craquer, je te vois venir, c'est le, c'est le marbre rose. Il y avait un marbre rose. Je suis très marbre, finalement.
Oui, c'est vrai.
Mon côté un peu snob.
C'est vrai, mais c'est fou parce que, tu vois, moi, quand on me parle de marbre... Alors, le marbre, en soi, c'est très beau, mais souvent, dans la décoration, ça peut être assez chargé. Mais
justement, ou froid.
Ou froid, ou quoi. Mais là, les exemples, ces exemples-là sont très parlants. C'est absolument magnifique ce que tu as... Vas-y,
le marbre doit être bien accompagné en fait.
Oui, c'est ça.
Donc tu vois la couleur terracotta, le zellige pour revenir à mon exemple de salle de bain, le bois, il faut réchauffer forcément.
Ouais.
Et là, donc ce marbre rose, on arrive et on voit toute la pièce de réception en marbre rose.
Ouais.
Un truc de fou, mais du vrai quoi.
Ouais.
Avec plein de petits creux, de petites enfin voilà, il avait bien vécu, il avait l'âge de l'immeuble quoi, donc les années 50, tu vois.
Ouais.
Et je craque sur ce truc. Et puis alors rez-de-jardin, donc là le rez-de-jardin, nous qui quittions quand même une maison avec jardin, le fait de pouvoir garder un extérieur après le Covid, on n'était pas fous non plus.
C'est clair.
Alors un rez-de-jardin sur le périph, c'est pas pareil qu'un rez-de-jardin sur une impasse privée où t'entends les oiseaux, c'est piéton, il y a les enfants qui jouent, enfin c'était vraiment le truc de fou. Mais il y avait du boulot.
Ouais.
Mais moi j'adore.
Et toi, ça faisait pas peur.
Voilà. Et donc, à 10 minutes à pied de France Télé, quand même.
Leur... Cocher toutes les cases.
Ouais. Et donc, il manquait une chambre.
D'accord.
Il manquait une chambre parce que parfois mes parents viennent, parce que surtout mon mari était à l'époque matinalier. Ça veut dire qu'on se lève la nuit à 2h du mat pour aller préparer les journaux du matin qui commencent à 6h. Et il était matinalier du lundi au jeudi. Et moi, je faisais les matinales, donc je me levais aussi à 2h du matin, mais du vendredi au dimanche. Et donc, en fait, on ne dormait plus ensemble, ça nous empêchait pas d'être un couple parfaitement fusionnel, mais on se réveillait tout le temps, on pouvait pas récupérer, enfin c'était compliqué. C'était déjà une vie un peu de moine, donc c'était compliqué. Ouais. Et dans ces grands appartes-là, à l'époque, dans les années 50, tu vois, les cuisines étaient très grandes. Mmh. C'était d'énormes cuisines, souvent à l'autre bout de l'appart, pas du tout accolées aux pièces de réception. Et donc là, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on avait l'énorme salon salle à manger, une énorme entrée ouverte, les toilettes. Après, on avait le couloir avec les deux chambres, la salle de bain. Et au bout du bout du bout, il y avait une grande cuisine quand même, 13 mètres carrés, tu vois. Mmh. Donc... Et donc, il a fallu réfléchir. Je me suis tout de suite dit, bon, ben voilà, on va faire une chambre à cet endroit-là. Ouais, il y avait un cellier qui pouvait faire un dressing. Enfin, c'était quand même vachement bien. La seule contrainte, c'est que comme c'était une cuisine, tu avais quand même tous les réseaux qui passaient. Voilà, donc il fallait réussir à faire un peu oublier ça. Mais sinon, c'était une grande pièce, quoi. Et puis, deux fenêtres sur le jardin. Enfin, tu vois, c'était quand même cool. Et donc, on a fait un jeu un peu de Tetris, c'est-à-dire que là où il y avait cette grande entrée qui servait à rien, on a fait une cuisine ouverte, assez minimaliste, mais très fonctionnelle, avec des façades en noyer, bois assez foncé, très années 50, dans l'esprit de l'appart.
Oui, oui, tout à fait.
Et d'autres façades, quelques façades en hauteur rose très pâle, très très pâle, blush ça s'appelle, et qui faisait écho au marbre rose. Sur la droite, sur tout un pan de mur de la salle à manger, là où la dame avait avant son canapé, nous on a fait un très grand meuble qui fait tout le pan de mur dans le même noyer que noyer cette fois-ci.
Ouais. Donc un placard.
Énorme placard qui fait vraiment tout le mur. Ouais. Et en fait.
Et du coup, tu fermes tes placards et c'est hyper minimaliste.
C'est hyper clean, tout
hyper
est rangé.
Je
sais exactement où sont les choses. Tac, 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 tac. C'est hyper pratique. Ouais. Et en même temps, ça fait du coup un L de placard en noyer avec la cuisine et ces placards-là. Ce qui fait qu'on a l'impression soit que la cuisine. N'existe quasiment pas parce qu'elle est vraiment intégrée dans le décor de la salle à manger, soit qu'on a une énorme cuisine, ça dépend comment on a envie de voir les choses. Et après, il fallait réchauffer quand même, donc j'ai utilisé plein de matières naturelles, des suspensions en raffia, des choses comme ça, des tapis, beaucoup d'objets artisanaux, du bois, enfin tout ce que j'aime, c'est ma cam, quoi. Et pour revenir à ta question de troisième chambre, donc du coup on a fait la chambre de Simon dans l'ancienne cuisine et cette cuisine on l'a mise à la place de la baignoire qui était dans la très grande salle de bain aveugle. Donc on a repoussé les murs de la salle de bain pour
vous l'avez rapetissé.
On a rapetissé la salle de bain. Enfin on l'a. Oui et non. Comment dire ça? Alors pour les gens qui écoutent, en fait il y avait cette grande entrée mais il manquait 60 cm de profondeur pour la cuisine qui correspondait à la baignoire qui était de l'autre côté du mur où il y avait la salle de bain. Donc on a cassé ce mur, on a viré la baignoire et on a refait le mur de la cuisine de l'autre côté en gagnant les 60 cm de profondeur qui nous manquaient. Du coup on pourrait croire que la salle de bain a été rapetissée mais pas trop en fait parce que on a curter un placard qui était au fond qui servait à rien et on en a fait des nouvelles toilettes. Et il y avait un autre placard qui servait à rien, qui était mal foutu, qui était dans un espèce de renfoncement. Il y avait plein de places perdues pour quasiment pas de rangement. Tout ça, on a curté. On a cassé juste le fond de ce mur-là pour aller grignoter sur la cuisine un espèce de... Il y avait un espèce de mini bout de corridor qui servait à rien du tout, qui abritait un radiateur et la porte. Et en fait, on a décalé la porte. Et on a juste grignoté ça. Et ça nous a permis... On a gagné quoi pareil, 40 cm, tu vois. Mais l'un dans l'autre, on a pu faire une grande douche à l'italienne. Ça n'a pas du tout fait perdre de place à la cuisine parce qu'on a juste décalé l'ouverture de la porte sur un côté. Et en fait, au lieu d'aller de devoir louvoyer un peu dans cette espèce de mini coupe-gorge avant d'aller dans la cuisine, on va directement dans la pièce.
Oui, c'est vrai que dans les anciens appartements, il y avait souvent des longs couloirs, des espaces
tellement de places perdues. C'est ça.
Et d'ailleurs, tu travailles beaucoup sur les petits espaces. Et c'est hyper malin souvent et très très esthétique, notamment tu as travaillé sur un petit appartement de 17 mètres carrés.
Deux chambres de bonne, ouais.
Incroyable.
Réunies.
Pour 4 personnes.
Ouais.
Et c'est
4 adultes en plus.
4 adultes.
Deux parents et deux grandes filles.
C'est fabuleux.
Et je me suis éclatée.
Ah oui, ça se voit. Et ouais. Donc tout est plaqué en bois. J'imagine que le brief c'était un lieu de couchage parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace de vie ici.
Ah si.
Si,
vie. Mais si, madame. Le brief c'était une famille qui pendant le Covid avait quitté Paris pour aller acheter une grande maison à Saumur. Et le papa était beaucoup en télétravail, mais il devait quand même être 2-3 jours par semaine sur Paris au siège à Montparnasse, au siège de son entreprise. Et il avait une de ses grandes filles qui venait faire ses études à Paris. Et donc le brief, ils avaient acheté ça pour que lui ait un pied-à-terre quand il venait travailler en présentiel. Et pour que sa fille puisse être sur Paris
donc
aussi.
Elle y vivait.
Mais il fallait que la maman et l'autre sœur puissent venir se faire des journées shopping à Paris quand elles avaient envie et qu'ils puissent être tous les quatre sans se marcher dessus et avec chacun son espace. Et donc, en fait, c'était deux chambres de bonne qu'ils avaient achetées tout en haut d'un immeuble haussmannien, donc 8e étage sans ascenseur.
Waouh.
Waouh. Et merci mon artisan magique qui a accepté le chantier. Et ces chambres de bonne formaient un L, si tu veux, et en fait elles se rejoignaient sur la partie du L qui se touchait. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais tu vois, ça formait un L et elles se rejoignaient à l'angle.
Ouais.
Et donc ça faisait vraiment deux pièces. C'était pas deux petites pièces qu'on aurait pu réunir en une grande, parce que ça faisait vraiment
un L.
Ouais. L'immeuble tournant à cet endroit-là, c'était vraiment. Il fallait faire avec un L. On pouvait pas faire un carré avec L, quoi. Et du coup, il y avait plein de contraintes parce qu'il y avait une énorme soupente sur une de ces chambres de bonne, vraiment très basse.
Vraiment,
tu tenais pas debout en dessous. Avec une fenêtre, mais un chien assis très haut, pas à hauteur d'homme, on ne pouvait pas voir.
Ouais.
Et de l'autre côté, il y avait une énorme poutre porteuse en diagonale et l'unique fenêtre à hauteur d'homme où on pouvait voir les toits de Paris. Donc, ça faisait beaucoup de contraintes. Et donc, il a fallu réfléchir. Et c'est là que le wabi-sabi est revenu en force, ou en tout cas l'esprit japandi, la manière de vivre des japonais, tu sais, les tokyoïtes, ils sont très
tout est très resserré,
optimisé, modulable à l'infini parce que c'est petit. Et j'ai vraiment fait un truc à la japonaise, et l'énorme contrainte aussi qu'il y avait, c'est que c'était donc comme deux couloirs un peu, des larges couloirs, mais quand même.
C'était quoi, large de combien en tout
Ça devait faire, même pas 2,80 m par pièce.
Ouais, c'est vraiment pas beaucoup.
Et il fallait isoler, parce qu'il y avait une visée locative quand même éventuellement un jour, et il fallait isoler. Et j'allais pas mettre 60 cm de laine de verre de chaque côté, parce que sinon je me retrouvais vraiment dans un coupe-gorge. Ça c'est le chien, c'est pas moi.
Ah oui.
Et du coup, c'est là que m'est venue l'idée d'une cabane en bois sur les toits de Paris. Parce que la manière d'isoler que j'ai trouvée, c'était de mettre du multicouche isolant sur les murs, agrafé. Donc ça, c'est comme une couverture de survie, mais tu as 19 couches.
C'est
hyper efficace. Ça fait
19 couches, ça fait combien en épaisseur ?
Ça fait 5 mm.
Ok. Ah ouais, très peu.
Par-dessus, on mettait le bois. On mettait un plaquage en bois, le fameux okumé, mon bois d'amour, que j'adore et qui est d'un rapport qualité-prix quand même intéressant.
Ah ouais.
Il n'est pas donné, surtout pour couvrir des murs et du plafond entièrement.
Ouais. Ouais.
Mais il est très beau, très facile à travailler, il suffit de le vernir. En vernis bateau mat, toujours, comme ça, c'est incolore.
Tu sais qu'il n'y aura
rien,
pas de...
Mais ça résiste,
Pas s'abîmer,
Et... sachant que moi j'aime ce qui se patine de toute façon, mais quand même pour les clients c'est mieux, surtout dans des cuisines. Et donc en fait on a mis ce plaquage bois partout sur les murs et sur le plafond. Donc vraiment on était dans une forme de tiny house sur les toits de Paris. Et pour pas faire too much en bois et ni trop oppressant et apporter de la lumière, on a fait un sol en béton ciré blanc, sachant que le parquet, il y avait un parquet, il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi t'as enlevé ce parquet ?» C'est vrai que c'est pas très wabi-sabi d'enlever du parquet, mais là, il était vraiment bouffé au vert, vert moulu, assez irrécupérable, pas du tout raccord avec le bois clair et, un peu scandi pour le coup des murs. Et surtout, en l'enlevant, on s'est aperçu qu'il y avait un espèce de vide sanitaire, tu vois, il était posé sur du sable qui s'était tassé.
Donc c'était faire quelque chose,
c'était pas solide et on pouvait blinder pour le coup d'isolant sol, de laine de verre et de roche et dans cet espace-là. Et par-dessus, on a fait on a mis isolant liège, après on a fait un ragréage et après on a fait le béton ciré. Et on a gagné 2 lettres sur le DPE avec ça. Et en plus, le dernier avantage du truc, c'était que ça nous permettait ce plaquage bois sur les murs de faire passer tous nos réseaux, tranquille. Parce qu'il fallait refaire toute l'électricité, toute la plomberie, il n'y avait rien.
Génial.
Donc voilà l'histoire de cet endroit. Et donc, c'est hyper modulable à la japonaise. Donc, tu rentres, tu as une entrée, on a fait un grand meuble séparatif entre l'entrée et la pièce de vie. Alors, c'est pour que la lumière du jour passe par le chien assis qui est en hauteur.
Ouais,
on a fait une bibliothèque, mais complètement ajourée. Il n'y a pas de fond. Et puis, on peut mettre la vaisselle, on peut mettre les bouquins, on peut mettre la machine à café. Voilà. En dessous, il y a le frigo qui est encastré. Un joli petit frigo. Et un placard à chaussures et une penderie. Sur la droite, quand tu rentres, il y avait le compteur électrique. Donc, on l'a camouflé. On a fait un placard toute hauteur qui doit faire 15 cm de large, mais on a fait plein d'étagères, donc tu peux poser tes clés, ranger tes sacs de course, ranger plein de trucs, ton rouge à lèvres, tout ce que tu veux. Et en bas, on a fait un rangement pour un tabouret escamotable qu'on a fait sur mesure et qui se déplie quand ça manque, quand tu as quelqu'un en plus. Et après, quand tu vas de l'autre côté de ce meuble bibliothèque, tu as la fameuse soupente, très 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 basse. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas à tortiller. Le seul moyen, c'est mettre un couchage, parce que quand tu es allongé, tu n'es pas debout. Donc, tu peux être dans un endroit comme ça. Mais il faut aussi que ça soit un salon.
Un peu un canapé,
Et donc, on a mis des futons à la japonaise. Comme ça, tu es assis sur le futon, sur une estrade, une estrade qui doit faire 35 cm de hauteur, ce qui fait que tu as quand même la place, tu vois, d'évoluer. Il y avait des canalisations à cacher, donc on en a fait une bibliothèque, et puis la porte de la bibliothèque peut se descendre et faire table basse. Et
génial.
Quand elle se remonte, tu peux soulever l'estrade, tu l'accroches à la soupente, et là, il y a un lit, un sommier à roulette qui se tire et qui fait le lit de place des parents. Et de l'autre côté de la bibliothèque, face au lit, tu as, pareil, un plan de travail qui peut se rabattre et qui permet de faire bureau, de cuisiner. Face au frigo, je ne sais pas si vous me suivez, mais face au frigo, donc à la perpendiculaire de la bibliothèque, tu as, dans un petit renfoncement, la cuisine avec l'évier, un placard pour les poubelles en bas, un truc trifonction qui fait plaque, four et mini lave-vaisselle, et puis 2 placards
même
en hauteur. Il y a même un lave-vaisselle.
Hallucinant, c'est génial.
Et puis 2 placards en hauteur avec le micro-ondes, et puis tu peux ranger ta bouffe et tout. Et la vaisselle, elle va dans la bibliothèque, dans la partie basse de la bibliothèque. Donc tout colle, tout rentre, c'est nickel.
Waouh ! Et un projet comme ça, alors je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu veux répondre, mais au niveau budget, au mètre carré,
écoute, on était à... au mètre carré, je n'ai pas calculé, mais les clients avaient un budget de 50 000, tout compris.
D'accord.
Avec les honoraires, avec les meubles, avec la vaisselle, jusqu'à la petite cuillère. J'ai vraiment tout acheté, le panier à linge, 50 000 tout compris. Et c'est vraiment pas cher. En vrai, c'est vraiment pas cher. Mon artisan, il a accepté parce qu'il s'est dit que ça ferait une carte de visite, tu vois. Mais c'est vraiment pas cher.
Il a rogné sur ses prix parce que tout est fait au millimètre près.
On a tous les deux rogné sur nos prix, mais c'était tellement excitant comme projet qu'on avait envie de le faire, en fait.
C'est vraiment une tiny house dans les toits de Paris.
C'est ça. Et donc, l'autre chambre de bonne, pour répondre à ta question, il y a une buanderie avec les toilettes. Parce qu'il y avait cette poutre porteuse qui faisait que, de toute façon, ça nous faisait des très grandes toilettes. Et puis après, tu avais le reste de la pièce.
D'accord.
Et donc, je me suis dit, quitte à avoir des très grandes toilettes, faisons une buanderie. Donc, on a mis une machine à laver séchante, les toilettes à côté avec le lave-main au-dessus de la chasse d'eau, là, le grand ballon d'eau chaude au-dessus.
Génial.
Et des étagères à droite du ballon d'eau chaude. Et en fait, au-dessus de la machine à laver, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une planche à repasser escamotable en bois. Donc, Rénel, mon artisan magique, je l'appelle mon magicien, a fait ce truc génial. C'est un peu comme dans les maisons de poupées quand on était petite, ouais, en fait, mais sauf que c'est en vrai.
C'est ça, ouais, c'est génial.
Et donc, la dernière pièce, il y a deux autres pièces encore dans ce bout de chambre qui reste. De l'autre côté des toilettes, c'était le seul endroit où il y avait l'arrivée d'eau. Donc, on a fait une baignoire sabot avec une douche ciel de pluie au-dessus. Et on a fait un petit meuble vasque. Et comme c'était le seul endroit où il y avait la fenêtre avec la vue sur les toits de Paris, on a cloisonné cette salle de bain avec des verrières ateliers tout autour. Et pour l'intimité, on a mis des stores en bambou partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça, tout le monde peut moduler à l'envi.
Ouais.
Et la partie qui reste, qui doit faire 2 mètres sur 2 mètres, en fait, on a fait des lits cabines, des lits couchettes pour les filles. Et donc, chacune a son dressing, qui est quand même grand, hein, qui fait 2 mètres sur 60 cm de profondeur.
Il y avait quoi comme hauteur en tout ?
Alors, il y a ce qu'il faut pour pas être claustro, en fait. Il y a 1,15 m chacune ou 1,20 m chacune, je
D'accord.
pense.
D'accord, donc quoi, il y avait 3 mètres de hauteur.
Ouais, c'est ça, à peu près, ou 2,80 m.
Ouais.
Parce que le premier lit, le lit de bas, il est sur une forme d'estrade, parce qu'il faut quand même être... qu'il y a un sommier aussi.
Oui, en plus. Hein.
Et oui, et du coup, on a fait des trappes.
Ouais,
tu m'as... Exactement.
C'est quoi tes couleurs fétiches ?
Moi, c'est les mêmes que toi. C'est le blanc craie, tu vois, le blanc chaud un peu.
Ouais.
Le crème, le grège, le rose ancien, toutes les couleurs
terracotta,
un peu fanées, le terracotta.
Ouais,
rien qui soit pas dans la nature, en fait.
Et ça,
c'est très wabi-sabi, tu vois. Parce que,
c'est des couleurs terriennes.
Ouais, c'est que des pigments
naturels.
Trouves, voilà, toutes les couleurs de terre, j'adore, du marron intense. Les terracotta, les camels, les bruns rouges, j'adore.
Ouais.
Ça, j'adore.
Et finalement, comme tu dis, comme c'est des teintes de la nature, en fait, tout s'associe vraiment très bien, en fait.
Il y a vraiment une vraie poésie. Il y a la poésie qu'on trouve dans les paysages qu'on aime à la folie.
C'est ça,
Alors, je ne suis pas vert vif, je suis plutôt vert tendre, vert très clair, vert un peu sourd, tu vois.
Ouais.
J'aime bien ce qui est sourd, en fait. Le vert passé, le kaki foncé, le lichen, les couleurs presque noires, j'aime beaucoup aussi.
Et j'aimerais bien maintenant que tu nous parles de ta maison en Bourgogne, parce que ça a été un peu le départ de notre première conversation, où tu m'as raconté que vous aviez un tout petit budget et vous aviez envie d'une maison de vacances et vous avez trouvé une petite pépite que vous avez rénovée qui est absolument adorable. Donc raconte-nous.
Écoute-moi, j'ai envie de dire, c'est un peu cynique, mais merci le Covid parce qu'en fait j'ai tous mes déclics à ce moment-là. Puisque c'est ça qui m'a aussi poussée à monter ma boîte en parallèle de mon premier métier. Et je me suis dit, il faudrait qu'on ait, comme tout le monde, comme tous les urbains de grandes villes, il faut qu'on ait un truc à 2 heures de voiture où on puisse respirer, quoi. Avoir un horizon, planter des fleurs, être à la campagne, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait Le Bon Coin, recherche, budget, 30 000 euros partout en France. Et je suis tombée sur une annonce.
Là encore un bol de...
À 31 000 euros. Et je vois cette maison donc en Bourgogne. Alors je vais sur les photos et là je vois une baignoire pied de lion. Ancienne, une vraie. Je vois ça dans l'annonce. Je vois des dalles de pierre de Bourgogne, dingue. Je vois 3000 papiers peints différents avec des motifs différents. Mais vraiment.
Déjà 31 000 euros.
31
je
000
même
euros,
pas
un jardin.
Acheter une maison pour 30 000 euros, quoi.
Moi non plus. Et je me dis, je vais y aller, mais je vais forcément avoir des mauvaises surprises.
Oui.
J'y vais. Et en fait, c'était la maison d'un couple qui était mort. Alors, le monsieur était mort 20 ans avant, la dame peut-être 35 ans avant. Et les enfants avaient toujours gardé la maison parce qu'ils y étaient nés, ils y avaient grandi. Là, tout laissé en l'état. Il y avait les calendriers avec des chats de 2002, je crois. Enfin, c'était incroyable. La maison était pleine à ras-bord. Le monsieur avait des mains en or parce qu'il avait tout fait sur mesure, des placards sur mesure partout. Hyper bien fait, hyper bien fait. Donc, j'ai tout gardé. Mmh. Bon, évidemment, il fallait changer les fenêtres, fallait refaire intégralement l'électricité. La plomberie était parfaite. Ouais. Il n'y avait
donc,
rien qu'à l'époque.
Donc, il y avait, et combien de mètres carrés elle fait, la maison?
90.
90 mètres carrés.
Il y a trois chambres. La cuisine était un peu dans un couloir devant l'escalier. C'est un peu bizarre, mais c'est resté comme ça. Alors ça, c'est un village qui est sur une colline. Et la maison est en hauteur dans ce village. Et tu ouvres les fenêtres et tu as une vue à 180 degrés sur la campagne. Oh. Les clochers, tu as 10 clochers. Tout autour, t'as les cultures qui changent de couleur au fil des saisons. Enfin, c'est un truc, t'as des levées et des couchers de soleil de dingue.
Wow.
C'est incroyable cet endroit.
C'est pas trop loin d'une gare, comment tu fais?
Non, c'est à 55 minutes en TGV de Paris.
C'est génial.
Et c'est vraiment notre...
Ouais,
on est bien
refuge,
là-bas,
quoi.
Qu'est-ce qu'on est bien, on veut jamais partir, ouais. On est toujours content d'arriver.
Ah, c'est chouette.
Et tu arrives, tu passes par un bois, quand tu arrives, et c'est vraiment le bois, tu sais, le bois de Blanche-Neige, mais pas le bois qui fait peur, le bois beau, là, tu vois, avec les arceaux, comme ça, et tu passes sous cette espèce d'allée d'arbres qui te disent bonjour, et tu vois des biches, et des renards, et des sangliers, et c'est génial, et on est arrivé par ce chemin-là, et mon mari m'a dit, j'ai pas vu la maison, mais c'est bon,
c'est bon
on y va, et après, on a vu la maison, et en fait, elle était hyper saine,
et
pour le prix, tu vois, on avait quand même un peu de budget, alors, on a craqué nos PEL, mais on avait quand même, comme... objectivement par rapport à Paris, les artisans en dehors des grandes villes sont quand même moins chers.
Ouais.
Et
ouais.
Merci à eux parce qu'ils travaillent tout aussi bien, voire mieux.
Ouais. Donc vous avez quand même fait appel
à des
artisans.
Oui, pour l'électricité.
Ouais. D'accord.
Pour l'électricité, bien sûr. Pour changer les fenêtres, bien sûr.
Okay.
Et puis, on a fait faire une piscine en bois qui est géniale, qui nous a coûté le prix de la maison. Mais ça a resté quand même une maison de campagne pour un budget défiant toute concurrence.
Et tout le reste,
on a fait seul.
Donc,
non.
La maison exactement comme elle était. Au départ, c'était un rez-de-jardin et eux avaient construit des chambres au-dessus.
Oui, des chambres, trois chambres.
Trois chambres.
Trois chambres, une salle de bain et un grand palier sur lequel on peut faire le yoga et tout ça en regardant la colline en face. C'est quand même...
Oh là là, trop bien.
Ouais, c'est trop, trop bien. Et après, tout le reste, vraiment, on a peint nous-mêmes à la chaux.
Ouais.
J'ai dit à la dame, vous me faites encore un tout... J'exagère quand j'y pense. Un tout petit prix et je m'occupe de vider la maison.
Ah oui.
Et elle m'a dit d'accord, elle a baissé de 1000 euros, je crois, c'était un peu symbolique, mais bon, à l'échelle du prix de la maison, voilà.
Ouais.
Et en fait, j'ai tout gardé.
T'as gardé tous les meubles qui étaient là, et donc qui font partie de l'histoire de...
J'ai recyclé, upcyclé, détourné.
Ouais. Même les meubles super kitsch, moches, réussi à les repeindre, les repimper.
Il y a un avant-après sur mon Instagram, il y a quelques avant-après, il y en a un qui est épinglé d'ailleurs, je crois.
Je vais essayer de faire un petit montage que je mettrai sur Instagram pour montrer.
Ok. Et donc, par exemple, sur ce avant-après, on voit notamment, il y avait un buffet ancien, très Henri II, tu vois, dans l'esprit. C'est
très
vraiment
travaillé,
hyper travaillé. Il y avait des têtes de soldats sculptées dans les portes, donc des têtes de soldats. Et en fait, il était accroché au mur et il était hyper pratique parce que ça faisait un gros rangement.
Un gros rangement, ouais.
Et je me suis dit, je vais le peindre en noir mat et on va voir ce que ça fait. Mmh. Et ça fait vraiment un truc un peu monastique.
Ouais.
Et en fait, avec tous les murs peints à la chaux autour et puis des meubles anciens, pour le coup, vraiment campagne et un peu brutaliste, ça fonctionne ultra bien.
Ouais. Donc vous avez fait, comment tu t'y es pris pour la déco de la maison? Donc tu as pris l'existant.
J'ai pris l'existant. Ça te plaît, hein?
Ouais.
Et j'ai pris l'existant et le ce qui me manquait, j'ai fait un gros tri dans ma maison, je me suis aperçue que j'avais à peu près tout en double.
Ah ouais.
Et voilà, et j'ai rapatrié,
t'as tout ramené.
Voilà.
Pour les murs, comment est-ce que tu as fait? Parce que tu m'as parlé d'un enduit spécial.
Alors, ben, je t'ai dit, il y avait des papiers peints partout, ouais. Avec des motifs différents dans chaque pièce, voire deux motifs différents par pièce. Donc, on a... Là, pour le coup, j'aime le vintage, mais là, vraiment, ouais, c'était tout moche.
J'ai tout enlevé.
Ouais. Et pendant 2 ans, on a gardé les murs en façon trash wall, parce que finalement, c'était des... Tu sais, c'est pas du placo à l'époque, c'était des beaux murs anciens. Ouais. Enfin, voilà, avec un bel enduit déjà fait par les gens d'avant, avec des creux des bosses et des marques du temps. Mais moi, j'adore ça. Il y avait une toise au crayon avec les tailles des gosses. Il y avait un des artisans, je sais pas, qui a peut-être fait la surélévation, qui avait signé avec la date. Et puis, c'était genre 1978 et c'est mon année de naissance, tu vois. C'est rigolo, quoi.
Ouais.
Et donc, on a gardé ça. Dans la cuisine, j'ai enlevé le carrelage qui était aussi très, très, très vraiment ringard pour le coup et juste pas beau. Et il y avait du carrelage sur une partie seulement du mur en crédence de la cuisinière. Et donc, j'ai enlevé. Et quand on a enlevé, ça a fait... c'était de la grosse colle à carrelage, tu sais, qu'ils avaient utilisé.
Ouais,
puis, ils avaient dû faire des dessins comme ça avec le pistolet.
Ouais.
Et en fait, j'ai trouvé ça beau.
Ouais.
Ce que ça laissait, il y avait des creux partout. Il y avait des endroits où le mur était un peu parti et tout. Mais ça faisait une espèce de toile un peu en relief, comme un tableau un peu gravé dans le mur.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai laissé comme ça.
Tu l'as laissé comme ça.
Et là, l'année dernière, j'ai eu un besoin de blanc, de mettre du blanc, d'unifier, de rafraîchir. Et donc, on a fait une peinture au lait et à la chaux. Mmh.
Donc, quand tu dis peinture à lait à la chaux, tu connais les...
Alors, je renvoie vers la personne ici pour rendre à César ce qui est à César. J'ai piqué la recette à Esprit Cabane sur Internet. Esprit Cabane, c'est une dame qui s'appelle Nathalie Boisseau. Et vraiment, j'ai acheté tous ses livres, je vous conseille. Mais elle a un blog aussi.
Ouais.
C'est très recyclé, faire soi-même.
Naturel.
Et c'est beaucoup les recettes d'avant, en fait, d'autrefois, qui sont souvent les meilleures.
Qui sont super, ouais.
Et donc là, c'est une recette hyper économique où tu fais un mélange de lait, surtout pas bio parce que ça sent pas bon. Mais de lait demi-écrémé, je crois, vraiment la marque de base dans le commerce, de la chaux, du blanc de meudon, tu mélanges tout ça et tu l'appliques.
Il faut que ça soit, c'est crémeux.
Crémeux,
c'est
c'est ça, vraiment comme une peinture.
Ouais. Et tu l'appliques
À la brosse ou à l'éponge, comme tu as envie, selon si tu as envie que ça se voit vraiment beaucoup, qu'on voit les passes ou pas.
Ouais.
Et puis, alors c'est très bizarre parce qu'au moment où tu l'appliques, comme c'est de la chaux, c'est translucide, donc tu dis, mais
on
ça sert à rien,
qu'en fait, ça
fait juste sortir
rien.
Les taches.
Ouais.
Et en fait, en séchant, ça s'opacifie et c'est vraiment très crayeux, donc c'est hyper joli,
hyper beau,
c'est doux.
Ouais.
En plus, ça a une vertu, c'est de la chaux, donc ça.
C'est respirant,
c'est anti-champignons, anti-moisissures, enfin c'est canon quoi.
Ah ouais, top.
Et c'est hyper beau.
Mm.
Et on a appliqué ça sur les murs en l'état avec les trous, les bosses, et en fait.
C'est génial,
ouais.
D'accord. Donc toute la maison,
les sols, on a arraché la moquette orange et puis il y avait une chape en dessous qu'on a poncée parce que là c'est pareil, il y avait des traces de colle partout, on a poncé.
Ouais.
Mais il en reste un peu, mais c'est pas grave,
c'est pas
ça
grave.
Fait des dessins, moi j'aime bien.
Ouais.
Et après j'ai peint la même peinture mais avec des pigments gris.
Donc au sol.
Au sol.
Okay.
Et ça fait vraiment un effet béton ciré. Et d'ailleurs, j'ai passé par-dessus un produit, un truc pour béton ciré.
C'est quoi ? C'est un vernis ou c'est
une
cire ?
Je pense que c'est une cire.
Une cire ?
C'est un produit cire. Ouais.
D'accord, ok.
Et en fait, ça marche trop trop bien.
Ouais.
C'est hyper joli et ça fait vraiment béton ciré.
Ça fait des marbrures un petit peu.
Ouais, c'est ça. Les pigments gris, forcément... Tu mets jamais le même dosage au gramme près quand tu refais une dose et enfin un pot et du coup
ça crée des
zones aussi. Enfin moi j'aime vachement bien ça.
Ouais,
ça beau. Dans l'électricité, on voulait pas faire de saignée et moi les baguettes en plastique, faut pas m'en parler. Donc en fait on a pris des tubes métalliques.
Ouais.
Noir et on a
que vous avez peint en noir
qu'on a trouvé
noir,
laqué noir. C'est vraiment les tubes d'électricien mais c'est industriel en fait au départ.
Ouais.
Et on a fait de l'apparent avec tout, tout noir comme ça, les boîtes de dérivation. On a mis un peu de budget dans les prises dans et les interrupteurs
ouais,
qui sont des...
Ouais, c'est ça,
c'est du très joli à l'ancienne, vraiment dans l'esprit de la maison.
Ouais,
mais tout le reste, c'est ces tubes noirs qui circulent un peu dans la maison, mais moi j'aime bien, c'est joli.
C'est très joli,
On a... On avait un super chauffage central, mais c'était au fioul et moi je voulais pas de fioul, donc on a viré la cuve de la cave qui prenait toute la place dans la cave. On a mis un petit sauna à la place, c'est très bien.
Vous avez un sauna,
on a un sauna,
c'est trop bien.
Oui, bah, vraiment, c'est un truc du grand commerce pour le coup qu'on a monté tout seul,
mais, bon,
mais
coup,
c'est
vous
canon.
Avez l'espace pour ça.
Ouais, c'est ça.
Trop bien.
Et à la place, on a mis un. Ça existe maintenant, on le sait pas beaucoup, les gens savent pas beaucoup, mais il y a des cuisinières à granulés. Qui se raccorde au chauffage central avec un, on appelle ça un ballon tampon. Et donc, c'est, en fait, il faut chercher poêle bouilleur ou cuisinière avec poêle bouilleur.
D'accord.
Ça s'appelle bouilleur parce que, en fait, ça envoie, ça chauffe aussi l'eau du chauffage central. Tu peux le raccorder à ton chauffage central.
C'est génial.
C'est génial.
Donc, ça veut dire que tout votre chauffage central est...
passe par le poêle.
Par le poêle qui a granule.
Ouais, on allume le poêle à granuler. Ce qui fait cuisinière, il y a une plaque en fonte au-dessus et il y a un four sur la droite. Vraiment à l'ancienne, tu peux faire mijoter des trucs pendant toute la journée.
C'est génial.
Génial.
Et en plus, ça existait ou vous l'avez acheté pour...
Non, on l'a acheté pour la maison.
Oui, parce
mais
que vous avez
c'est un truc, c'est un produit qui n'est pas très connu.
Ah ben,
et franchement,
c'est
génial. En plus, ça peut se commander à distance, s'allumer à distance.
Okay. Et c'est pour... pour une maison d'une certaine taille ou...
Ben non, parce qu'en fait, comme ça alimente ton chauffage central, il suffit que tu aies des radiateurs. Nous, on avait des beaux radiateurs en fonte partout à l'ancienne.
Vous avez pu raccorder.
Donc, on a raccordé. Et,
j'adore cette idée, Ben, hyper intéressant.
Et comme la cuisine, c'était vraiment... en fait, si tu veux, tu as l'escalier avec les toilettes en dessous et puis en face, tu as la cuisine. Donc, la cuisine, elle est un peu dans le passage entre le salon et le... Et l'escalier, donc c'est vraiment, on doit avoir 2 mètres carrés, 2 mètres carrés quoi.
D'accord, tu passes par la cuisine.
Ouais, c'est ça, en fait tu passes, tu as un bout de la cuisine à droite, à gauche, tu as le reste en face de toi, et puis après à droite tu as l'escalier quoi.
D'accord. Ouais.
Mais en fait on a, comme on a mis ce poêle qui fait cuisinière, on a le four et la plaque là.
Ouais.
Et en plus tu cuisines à l'ancienne dans ta salle à manger, donc c'est trop
génial.
Agréable.
Ouais.
Et en fait, dans la cuisine, on a gardé le vieil évier en porcelaine, tu sais, un peu bac, comment on appelle
timbre,
ça, un timbre d'office,
timbre
voilà.
D'office.
J'ai récupéré, dans tous les meubles que j'ai récupérés, il y avait une vieille commode très très grosse avec un dessus en marbre, et il y avait des pieds de machines à coudre, tu sais, Singer, des pieds anciens.
Ouais.
Et donc, en fait, j'ai pris les pieds, j'ai mis le plateau de la commode au-dessus et ça me fait mon plan de travail dans la cuisine. Et puis après, j'ai acheté de l'électroménager un peu rétro-design pour quand même faire joli et voilà. Et la commode, je l'ai décapée. Et il y avait un lit sur les avant-après, on le voit sur Insta aussi, un petit lit d'enfant. Tu sais, les lits à l'ancienne, toi qui chines, tu sais ça. Les lits... où tu as les accoudoirs de chaque côté qui peuvent se baisser pour faire un lit d'appoint.
Pour faire, ouais.
Et donc, ça fait lit bébé évolutif, en fait, mais des années 20.
Banquette.
Qui devient banquette. Et donc, ça, je l'ai mis en petit canapé d'appoint dans le salon. Donc, il y a la grange. Alors là, c'était un sol en terre battue et une très vieille porte magnifique, très, très usée aussi, que j'adore, que j'ai laissée comme ça. Et donc, en fait, j'ai mis une grande, grande bâche sur le sol. Acheté, je crois, 30 tapis à 20 euros sur le Bon Coin. Des tapis à fleurs, des tapis babacou, tous les tapis de la terre que je trouvais à 20 euros.
Ouais.
Et j'ai tapissé le sol de ma grange avec ça.
Ah,
c'est
génial.
Très bohème.
Trop bien.
Et du coup, j'ai mis les sommiers avec les matelas, plein de plaides, plein de coussins. Et on a tendu une énorme toile de cinéma. Et on se fait on a mis un projo, un rétroprojecteur en face. Et on se fait du cinéma en semi-plein air. C'est génial.
C'est génial. Trop bien.
On a mis des guirlandes guinguettes. Oh, puis voilà, c'est notre estaminet.
Tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux...
Mon conseil, c'est justement de pas forcément se dire que de passer par un décorateur ou un archi d'intérieur, ça va être de l'argent dépensé. Mmh. Alors oui, c'est un investissement, mais c'est aussi faire venir quelqu'un qui justement va avoir un œil neuf sur ton lieu, sur tes affaires, sur tout ce qu'on peut imaginer, qui va te permettre de quelque part déménager en restant chez toi. Revoir tes affaires avec un nouveau regard, une nouvelle histoire. Et en fait, oui, tu payes l'archi, oui, tu payes le décorateur, mais quelque part, il te fait gagner des sous aussi parce que il t'évite de devoir vendre et déménager et racheter ailleurs. Moi, j'ai plein de clients qui me disent on voulait déménager, en fait, on ne peut plus, les taux d'intérêt, les machins, tout ça. Et on adore notre appart, mais voilà, il y a ça qui ne nous va plus, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et puis, comme tu dis, toi, parfois, il nous manque une chambre ou il manque quelque chose. Et en revoyant les
et
choses
en étant
complètement...
tout le temps chez soi, on n'a plus le regard neuf. Et moi, j'adore tripoter les plans jusqu'à ce que je trouve. Le problème, c'est que je n'arrive pas à dormir tant que je n'ai pas trouvé les solutions.
Et ton inspiration, tu la trouves où? Comment tu
prends? Tu fais partie des gens qui m'inspirent depuis très longtemps. Non, c'est vrai. Alors, bien avant de te connaître, j'ai commencé à te suivre en découvrant ta maison dans les magazines auxquels je suis toujours autant abonnée. Et j'adore ton... on est pareil, on a les mêmes amours, des mêmes choses, des mêmes couleurs, des mêmes... de la même poésie.
Et il y a d'autres contes que tu...
Les contes qui m'inspirent, le tien, évidemment. Il y a Billy Blanquette, que j'aime bien. Alors... c'est pas forcément mon esthétique, ce qu'elle propose, parce qu'elle fait des tonnes de reportages différents et très variés chez elle, j'adore. Mais j'adore sa manière d'emmener,
d'embarquer, de parler des intérieurs.
Vraiment, j'adore.
Ouais, c'est vrai.
En fait, en plus, elle est marrante, elle est hyper sympa, même quand... tu vois, même quand elle va te citer une marque ou un truc, c'est jamais gratuit, c'est jamais juste pour citer. Elle explique pourquoi, quand elle aime pas, elle le dit. Elle est très honnête. J'adore son univers, j'adore la fille qu'elle est, parce que depuis, je l'ai rencontrée. J'adore Billy Blanquette, je recommande. J'aime bien Sloft, pour les gens justement qui aiment les petits espaces urbains, voir comment on peut faire. C'est une mine, j'adore.
Ils ont aussi un magazine.
Ils ont un magazine, il y a le site et il y a un magazine quelques fois par an qui est super. Et grâce à eux, j'ai rencontré le meilleur photographe de la Terre, puisqu'ils ont eu envie de faire un reportage sur deux de mes projets. Et donc, c'est Juan, je ne sais pas comment on dit, Juarez. C'est vrai que toi, tu as des origines hispaniques, donc tu sais mieux que moi. Juan, pardon si tu m'écoutes, d'écorcher ton nom. Et il fait des photos folles, trop belles. Il a un œil incroyable. Il rentre. Si tu veux, moi, je fais des lieux où je raconte une histoire, où il y a forcément... s'il n'y a pas de poésie, c'est que j'ai raté. En fait, j'ai besoin qu'il y ait ça.
Il arrive à le transcrire.
C'est dans ses photos, en fait. C'est l'atmosphère que j'ai voulu donner. Tu vois, donner une atmosphère en photo, c'est pas facile. Lui, il y arrive. Il retranscrit ça. Et il a un super compte. Comme je prononce comme un pied, c'est J-U-A-N-J-U-E-R-E-Z. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup les sites. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre comme compte? J'aime bien Rosie Mistou. Rosie Mistou, c'est une céramiste qui fait des mobiles en céramique. Trop beau. Va regarder, parce qu'il y a tes coloris en plus. C'est vraiment génial. Et le dernier conte que j'adore, parce que pour le coup, c'est du wabi-sabi, 100% wabi-sabi. Alors, il y a Axel Verwoerd, évidemment, mais ça s'appelle Raccord Home. C'est un jeune homme que j'ai rencontré quand je suis allée à Athènes, qui est en Grèce, qui est parti sur Paris maintenant, qui va remonter à une boutique sur Paris et qui ne fait que des objets wabi-sabi.
Ah, génial!
Et il fait des photos incroyables. Il a un art de mettre ses objets en scène. Il y a une lumière, il y a de la chaux, il y a des couleurs. C'est très, les tableaux flamands clair-obscur. C'est vraiment ça, quoi. C'est trop beau. Donc Raccord, R-A-K-H-O-R, Home, comme maison en anglais, H-O-M-E. C'est génial.
Génial, ben merci Camille. Pour ceux qui ont envie de te contacter,
www.projet ou wabi.com.
Et ton compte Insta,
mon compte Insta, c'est arrobase projet le tiré du 8 là, underscore. wabi_sabi.
Merci, c'était un grand plaisir.
Partagé.
Et puis je suis sûre que
on fera des choses ensemble. On s'est déjà trouvé. Merci à toi.
Merci. À bientôt.
Voilà pour ce nouvel épisode. Vous l'avez entendu, Camille et moi avons la même vision de la décoration d'intérieur. C'est le lieu et son histoire qui deviennent le fil conducteur de la rénovation. Et avec un regard neuf, on peut utiliser l'existant, les matériaux, la structure, mais aussi souvent les meubles qui sont là, en les repimpant. Pour créer une atmosphère contemporaine, chaleureuse. Camille a une équipe d'artisans de rêve, ça c'est sûr. Et quelque chose me dit qu'on va sûrement collaborer ensemble sur des projets. Alors, si vous avez envie de nous parler de votre projet, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'en parler avec vous. À bientôt. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre des étoiles et de parler du podcast autour de vous pour le faire exister. Merci, au revoir.